Avec vous. Il y a quelques jours ou quelques semaines, on avait parlé, Christian et moi, de l'évangélisation, c'est-à-dire de partager l'évangile. Et vous avez aussi dans votre bulletin, je crois, trois mots qui caractérisent l'Église, n'est-ce pas? Puis un des trois mots, c'est croître, c'est bien ça? Hein? C'est bien ça, croître? Donc pour pouvoir croître, je crois que c'est important de parler du Seigneur et de pouvoir savoir présenter l'Évangile. Il y a deux façons de parler du Seigneur. Il y a une façon subjective et une façon objective. La façon subjective, c'est de parler de notre expérience. L'apôtre Paul raconte son témoignage dans Actes à deux reprises. Et nous pouvons raconter aussi notre témoignage. Mais souvent, lorsque nous racontons notre témoignage, nous mettons beaucoup d'accent sur ce que nous avons vécu, sur notre propre expérience, sans nécessairement expliquer aussi bien que nous le devrions le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire ce que c'est que la bonne nouvelle, ce que c'est que l'Évangile. Donc c'est deux choses un peu différentes, de présenter notre témoignage avec notre histoire, puis comme nous connaissons bien notre histoire, nous... D'habitude, nous donnons beaucoup de détails sur notre propre vie, hein, et nous parlons beaucoup moins de ce que le Seigneur fait. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand une personne donne son témoignage à l'Église, si on ne l'a pas aidé à se préparer, la personne va raconter plein de détails sur sa vie, plein de détails. Puis à un moment donné, ah ben, j'ai donné ma vie à Jésus, tu sais, et puis pratiquement ça se termine là. Présenter l'Évangile d'une manière objective, c'est expliquer le salut à travers Jésus-Christ. Alors, mon expérience peut être un moyen d'attirer l'attention de quelqu'un, mais mettre l'accent sur mon expérience, ce n'est pas la même chose que mettre l'accent sur ce que le Seigneur a fait au travers de son sacrifice et de sa mort sur la croix. Alors il est vrai que présenter un texte qui explique d'une manière très précise ce qu'est l'Évangile, il y en a certainement plusieurs, mais chaque texte met l'accent sur certains éléments et peut-être moins sur d'autres. Un des textes qui est peut-être au cœur de l'Évangile selon certains, c'est Romains au chapitre 3, versets 19 à 26. Et même dans ce passage-là, comme nous allons probablement le voir tout à l'heure ou cet après-midi, après le service, même dans le cadre de ce texte, il y a des éléments qui ne sont pas aussi clairs que dans d'autres passages de la Bible. Alors c'est la raison pour laquelle souvent on fait une synthèse pour décrire ce que c'est que l'Évangile, pour présenter l'Évangile. Alors je vais vous présenter une première synthèse que vous connaissez certainement tous très bien, mais qui nous présente, je crois, les éléments principaux de ce que c'est que la bonne nouvelle, ce que c'est que l'Évangile. Vous savez que l'Évangile, ça vient du mot grec Evangelion, qui veut dire la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Donc l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qu'on présente aux gens. Alors d'abord, il faut en être convaincu que c'est une bonne nouvelle, tu sais. Une fois qu'on est convaincu, il faut l'expliquer ce que c'est que cette bonne nouvelle. Alors je vais vous présenter d'abord ce que vous connaissez probablement, enfin peut-être la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu cette présentation de l'Évangile, ou quelqu'un vous a peut-être déjà présenté l'Évangile de cette manière. Ensuite nous regarderons le texte du Romain, et puis après notre service, je ne sais pas si avant le repas ou après le repas, on parlera de manière un peu plus pratique, et je vous présenterai une autre façon de présenter l'Évangile. Alors avant de débuter, j'aimerais dire ceci. Si vous avez l'occasion de présenter l'Évangile à deux ou trois personnes, d'accord? Admettons que vous êtes deux, peut-être vous formez un couple, vous présentez l'Évangile avec vos amis, il y en a un qui parle, et puis l'autre parle aussi. Souvent le problème, c'est que chacun de ceux qui présentent l'Évangile s'en va dans sa propre direction. On met l'accent sur ce qu'il trouve le plus important. Et son partenaire, ben à son tour, quand il prend la parole, lui, il met l'accent aussi sur ce qui l'intéresse le plus, là, tu sais, ou ce qui semble le plus pertinent pour lui. Et souvent, on a deux personnes qui parlent, et ils ne parlent pas nécessairement tous les deux unis pour présenter l'évangile. Et ça peut parfois créer un petit peu de confusion. Quand vous connaissez une façon de présenter l'évangile, parce qu'il y en a plusieurs, quand vous connaissez une façon de présenter l'évangile et que la personne avec qui vous êtes en tandem pour annoncer la bonne nouvelle la connaît aussi, et que vous avez décidé de présenter l'évangile en utilisant tous les deux la même méthode, vous savez exactement là où vous vous dirigez, et l'autre sait exactement là où vous allez. Et quand l'autre prend la parole, il va continuer dans la même direction, la même veine que celle que vous avez choisie. Donc je crois que c'est important, quand on veut présenter l'évangile, de se mettre d'accord. Quand on est deux, quand on est trois, parfois on fait des visites d'église, puis on veut présenter l'évangile, c'est important de se mettre d'accord pour que la présentation de l'évangile aille dans une même direction. D'accord ? Alors, je vais commencer à vous présenter ce que vous connaissez probablement déjà. Vous pouvez le retrouver dans le site web bible.org. C'est la présentation de l'évangile sous la forme du pont. Bon, là, ça avance pas tout seul. Alors, il faut cliquer sur la petite image, je pense. Voilà, c'est ça. Je pense que Christian m'a dit qu'il y avait un petit problème pour calibrer l'appareil, là. Alors, au lieu de voir le plein écran... Est-ce qu'on peut mettre plein écran? Est-ce qu'il est là, Christian? Je peux mettre plein écran, mais il me dit que c'était un peu... Oups. Là, vous voyez, ça tombe pas très bien. Donc là, il faut faire un escape. Alors, je pense qu'il faut aller sur l'ordinateur faire un escape. Eh, fantastique. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est bon. Comment? Où ça? Ici? Il faut que j'appuie là? Là, il faut que j'agisse par la foi, parce que je ne sais pas du tout ce que je fais là. Non, ça n'a pas l'air de bien marcher. En tout cas, donc je ne sais pas si ma foi était bien placée. Donc vous connaissez certainement ce qu'on appelle la présentation du pont quand on présente l'évangile, c'est-à-dire qu'on part de la Genèse et on dit que l'être humain a été créé par Dieu et que Dieu c'est un Dieu d'amour. Il a créé l'être humain, il l'a placé dans un monde où il peut s'épanouir, dans le jardin d'Éden, et l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, vous voyez, quand on présente l'évangile, on peut donner les informations qu'on trouve pertinentes, des fois avec plus de détails, des fois avec moins de détails. Ça dépend le temps qu'on a aussi. On peut présenter l'évangile en 3 minutes, comme on peut présenter l'évangile en 1 heure. Ça dépend un petit peu les détails qu'on présente, qu'on utilise dans notre présentation de l'évangile. Malheureusement, comme la Bible dit, eh bien, le péché est entré dans le monde, ce qui fait en sorte que l'être humain est séparé de Dieu. Et il y a un gouffre entre Dieu et l'être humain, et l'être humain essaye de franchir ce gouffre de toutes sortes de manières. Une des manières, c'est par les œuvres, mais voyez que la tentative n'atteint pas l'autre bord. Hein. Voyez qu'il essaye aussi par la religion. La tentative de rejoindre Dieu par la religion ne suffit pas. Et parfois par la tradition, les traditions, la philosophie, la morale, on essaye d'atteindre Dieu, mais ça ne suffit pas. L'être humain est toujours séparé de Dieu, et fondamentalement, il est séparé de Dieu à cause du péché. Et cette séparation entraîne la mort, entraîne ultimement la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, puisque après la mort, dit la Bible, vient le jugement, et que Dieu va nous juger. Et si nous n'avons pas réussi à entrer en communion avec Dieu pendant notre vie, ben Dieu ne va pas nous forcer, une fois qu'on sera mort, à entrer en communion avec lui. Donc ce sera le jugement, puis la séparation éternelle avec Dieu. Dans cette situation, ce qui est important de rappeler aussi, c'est que Dieu veut nous donner la vie éternelle. Hein, c'est ça l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est de faire preuve d'amour envers nous. Mais ce Dieu d'amour, il est aussi un Dieu juste, c'est pour cela qu'il doit juger toutes nos actions, et c'est pour cela que si notre péché nous sépare toujours d'avec Dieu, eh bien nous serons privés de la vie éternelle, et nous serons privés de la vie en abondance que le Seigneur a à réserve pour tous ceux qui croient en lui. Alors ça, c'est le problème. c'est que dans la Bible, quand il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un problème qui vient avec. Et souvent, nous, quand on présente l'Évangile, on n'aime pas parler du problème. Et on présente l'Évangile sous la forme suivante, Dieu est un Dieu d'amour, puis Dieu t'aime, voilà. Oui, mais Dieu m'aime, mais il m'aime. Comment ça, il m'aime, tu sais? L'Évangile, il faut se rappeler, c'est une bonne nouvelle. Donc, une bonne nouvelle vient quand il y en a une mauvaise avant, tu sais. Dans Romains 1, on nous dit que tout homme est séparé de Dieu, hein. Tout homme est condamné devant Dieu. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais après, vient la bonne nouvelle. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est la justification par la foi. Tu sais. Donc, si on veut présenter l'Évangile à ceux qui nous entourent, il faut que nous parlions aussi de la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes séparés d'avec Dieu, tu sais, que nous sommes séparés à cause de notre péché. C'est pas le fun. C'est pas le fun de parler de ça dans une société qui ne veut pas l'entendre. Mais comment parler d'une bonne nouvelle si on ne parle pas de ça, tu sais? Si tout le monde peut arriver à Dieu sans qu'on parle du péché, ben c'est peut-être plus facile à annoncer, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Tu sais. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que la colère de Dieu se manifeste contre chacun d'entre nous. Alors, la présentation du pont, telle que je vous la fais ici à l'écran, ben j'ai ajouté peut-être des versets, je ne me rappelle plus si j'ai fait des modifications par rapport à l'original, mais probablement j'en ai fait certaines. Mais la Bible nous dit que Dieu a prévu un chemin pour que l'être humain puisse aller jusqu'à Dieu. Donc passer d'un côté du gouffre pour aller de l'autre côté du gouffre, et que le chemin c'est Jésus-Christ. Et la croix de Jésus-Christ symbolise ce chemin, parce que la partie transversale, donc dans le dessin, nous montre que l'être humain qui est à gauche peut passer en marchant sur la croix jusqu'à Dieu, n'est-ce pas? Alors l'important quand on présente l'Évangile, c'est de parler de la personne et de l'œuvre de Jésus. Pas juste la personne, mais aussi l'œuvre. Pas juste l'œuvre, mais aussi la personne. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a plusieurs versets que je ne citerai pas, mais essentiellement, ce qu'on veut dire quand on présente l'Évangile, c'est que Jésus, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et c'est parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme qu'il peut être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est un très bon intermédiaire, c'est quelqu'un qui connaît les deux parties. N'essayez pas d'entamer des négociations syndicales avec un intermédiaire qui serait du côté patronal. Ça ne marcherait pas, parce que les syndicats n'auraient pas confiance. Et vice-versa, si on entreprend des négociations entre des ouvriers et puis un patron, mais que l'intermédiaire il est du côté des ouvriers, ben ça ne marchera pas, parce que les patrons se sentiront floués avant même qu'on ait commencé des négociations. Tu sais, il n'y aura pas de confiance. Mais le Seigneur, lui, il représente les deux parties, parce qu'il est vraiment le Fils de Dieu, donc il est pleinement divin et il est parfait. Et ensuite, c'est parce qu'il est pleinement homme, c'est-à-dire qu'il est totalement humain, mais sans aucun péché. Donc il est vraiment l'intermédiaire entre lui et nous. Entre parenthèses, si vous parlez à des gens qui accordent l'importance aux anges, ben les anges ne peuvent pas être des bons intermédiaires, parce que les anges n'ont pas été incarnés, puis les anges ne sont pas divins non plus. Donc ils ne représentent pas très bien les deux parties. T'sais. Alors Jésus-Christ est le seul qui présente, qui est le qualifié pour pouvoir être l'intermédiaire. Il y a un seul chemin entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais ceci étant dit, ceci étant expliqué, cette bonne nouvelle, on peut l'entendre, mais cette bonne nouvelle, il faut la faire nôtre. D'accord? Il faut la faire nôtre, la bonne nouvelle. Si je la fais pas mienne, la bonne nouvelle, j'ai entendu parler d'elle, mais pour une raison quelconque, je n'y adhère pas. T'sais? Et la Bible nous dit que pour pouvoir passer d'un côté à l'autre, alors c'est dommage qu'on n'ait pas le plein écran, parce que là j'avais, voyez-vous, toutes les silhouettes, là on peut présenter les silhouettes une après l'autre, donc on voit le personnage qui avance et qui passe sur le pont qui est représenté par la croix et qui arrive jusqu'à Dieu. Donc la Bible nous dit, puis ça je l'ai rajouté je pense, c'est que nous pouvons accéder à Dieu par la repentance et par la foi. J'ai ajouté repentance parce que dans le schéma originel, je pense qu'on avait simplement la foi. Tu sais. Mais la repentance, c'est de regretter notre condition, de regretter notre péché. Et par la foi, c'est accepter que Jésus-Christ, sur la croix, il a payé pour nous. Il a payé le prix du péché pour que moi, je n'ai pas à le payer. Et la justice de Christ retombe sur moi. Donc Dieu me considère comme juste au travers du seul juste qui a vécu la seule vie humaine parfaite. Alors c'est un petit peu ce qu'on peut utiliser quand on présente l'évangile. Si vous êtes à deux, puis que vous utilisez la même méthode, vous savez exactement où vous allez. Si vous avez appris les mêmes versets, vous savez quel verset citer. Si votre partenaire, il commence en parlant de l'être humain, il parle du péché, puis il a oublié, je ne sais pas moi, de parler de la mort, vous connaissez la présentation de l'évangile, vous pouvez entrer dans la conversation, compléter, sans contredire, puis vous êtes vraiment une équipe qui présentait, qui allait dans la même direction, qui présentait l'évangile. C'est important quand on veut présenter l'évangile en équipe, surtout en tant qu'église. Tu sais, vous allez voir un contact, quelqu'un qui est intéressé, et puis vous voulez lui présenter l'évangile. C'est important de vous entendre pour marcher dans la même direction avant de faire la visite. D'accord ? Alors, je me souviens, quand j'étais à Châteauguay, j'avais présenté l'évangile de cette manière-là à un homme. Je me rappelle plus quel âge il avait, dans la vingtaine probablement. Et puis après, avant de lui parler après avoir présenté la repentance et la foi, je lui ai dit: où est-ce que tu te situes dans le dessin, tu sais? Alors il m'a dit: moi je me situe ici. Il m'a dit: ici, moi je suis là. Mais j'ai dit: tu voudrais pas être ici? Il m'a dit: oui, je voudrais bien, mais je suis pas encore du côté de Dieu, je suis encore ici. Et il avait très très bien compris le message. Alors ça, c'est déjà une bonne chose de bien comprendre l'évangile. Mais même si j'explique très bien l'évangile, très très bien, très net, c'est clair, c'est pas moi qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui sauve. C'est pour ça que nous avons besoin de la prière, pour que le Seigneur utilise notre présentation de l'évangile et par son esprit touche le cœur de celui ou celle qui l'entend. Mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de justice, de jugement et qui amène au salut, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que Christ nous attire à lui que celui qui prêche l'évangile ne devrait pas tout faire pour essayer de prêcher l'évangile de la meilleure façon possible et de la façon la plus claire possible. D'accord? Un des éléments essentiels quand on présente l'évangile, c'est de savoir où est-ce qu'on s'est arrêté à la dernière discussion qu'on avait eue avec quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être vous discutez avec votre mère, vous présentez l'évangile, vous commencez. Puis vous dites: ah, tu sais, Dieu nous a créés, tu as créé l'homme, puis Dieu, il aime tellement l'homme qu'il l'a mis dans un contexte agréable, tu sais, le paradis, tout ça. Puis l'homme a péché, tu sais. Puis là, le téléphone sonne, un voisin arrive, puis la discussion est interrompue. Alors vous dites: zut! Il va falloir que je revienne là-dessus. Ouais, mais quand tu reviens là-dessus, tu n'es pas obligé de recommencer à zéro. Tu sais. Tu t'es arrêté au fait que l'homme était pécheur. Donc tu peux reprendre là où tu t'es arrêté. Tu sais. Et même si vous êtes dans la même famille, vous êtes deux chrétiens, puis vous parlez à un troisième membre de la famille, et puis le premier chrétien, il dit au second: j'ai commencé à présenter l'évangile à notre frère, et puis là, il y a eu une interruption, puis on s'est arrêté. Où est-ce que tu t'es arrêté? Je me suis arrêté au moment où on parlait du péché, c'est que l'homme est pécheur, qu'il est séparé d'avec Dieu. Si vous prenez le relais, puis vous continuez 3 jours après à présenter l'évangile, vous savez ce qui a été dit avant. Puis vous pouvez continuer là où ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que vous avez la même approche, la même façon de présenter l'évangile. Ça, c'est vraiment intéressant, tu sais. Et on peut y aller de manière systématique pour bien présenter l'ensemble de l'évangile à ceux qui nous entourent, surtout quand on le fait à plusieurs. Alors, donc, ce garçon cet homme avec qui j'ai présenté l'évangile, avait très bien compris qu'il n'avait pas franchi le gouffre. Mais il m'a dit: « ça me touche tellement. Je voudrais franchir le gouffre. » Puis quand j'ai demandé, j'ai dit: « Est-ce que tu crois en Jésus ?» Si on a parlé de la foi, je voyais bien qu'il n'avait pas encore fait le pas. Tu sais, c'est facile quand on présente l'évangile de forcer quelqu'un à faire une confession de foi qui serait émotionnelle ou superficielle. Mais on ne fait pas notre travail correctement si on fait ça, tu sais. Je veux dire, on doit mettre les gens devant le choix d'exercer la foi, devant le choix de se repentir et devant le choix de crier à Dieu pour que Dieu change leur cœur. Parce que c'est Dieu qui change le cœur, c'est pas moi. Même si je présente l'évangile de façon extrêmement claire, c'est pas moi qui change le cœur. Alors voilà. Donc quand on présente, quand on veut se former pour présenter l'Évangile, souvent on vous présente des méthodes de présentation de l'Évangile. Tu sais. Et puis il y a des méthodes meilleures que d'autres, mais il n'y a aucune méthode qui est parfaite. Et c'est un peu compliqué parfois de trouver un texte biblique qui nous présenterait toutes les étapes qu'on voudrait présenter à quelqu'un pour présenter l'Évangile. Tu sais. Mais peut-être qu'un des textes les plus centraux, c'est Romains 3, verset 19 à 26. Alors je vous invite à prendre Romains 3, verset 19 à 26. Alors comme vous le voyez, je change un peu ce dimanche dans ma présentation de l'Évangile. D'habitude, je prends un texte biblique, puis j'étudie à fond, etc. Tu sais, je fais un plan, tout ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je change dans ma manière habituelle d'enseigner, mais pour pouvoir aborder ce sujet, je crois que c'est quand même important de pouvoir y aller de manière un peu plus systématique. Mais tout de même, on va regarder Romains 3, versets 19 à 26, puis on va noter dans Romains 3, versets 19 à 26, ce que le texte nous présente comme élément qu'on retrouve dans une autre présentation de l'Évangile. Après le service, on va parler d'une autre présentation de l'Évangile. Ça s'appelle EE, c'est évangélisation explosive. C'est une méthode d'évangélisation qui a été préparée puis diffusée par Kennedy, un pasteur de la Floride. Ça a été répandu dans le monde entier, cette méthode de présenter l'Évangile. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, je sais que Luc il la connaît, Suzanne. Parce qu'au séminaire qu'on était à Toronto, c'est là que moi, la première fois, j'étais exposé à l'approche de EE. Alors, avant de regarder Romains, je vais vous dire que l'approche de EE s'articule non pas autour d'un graphique comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Entre parenthèses, la présentation du pont, c'est très intéressant parce que vous pouvez dessiner tout ça tout en parlant. Tu sais, vous dessinez l'homme qui est sur un côté, le gouffre, l'autre côté, Dieu. Vous pouvez le dessiner. Vous pouvez marquer les versets bibliques. Puis vous pouvez faire ça au restaurant, sur la nappe de papier fournie par le restaurant. Il y a tout qui se recycle, vous savez. Donc, vous pouvez retourner la nappe de papier, puis souvent, c'est blanc derrière. Alors, tu commences à écrire, tu sais. Et puis, tu peux faire tout le dessin du pont, d'expliquer le message de l'Évangile, puis après, tu laisses le dessin à la personne. D'accord? La présentation de EE n'a pas cet avantage-là. Il y a d'autres avantages. Mais la présentation d'évangélisation par explosive se fait par cinq éléments. Les cinq éléments, les voici. Tout d'abord, la présentation de l'Évangile avec EE commence par la grâce. Ça commence par la grâce. L'explication de la grâce de Dieu. Et on va regarder dans Romains 3 si on trouve des éléments sur la grâce. Ensuite, EE nous présente la situation de l'être humain. C'est là où intervient sa situation, sa culpabilité devant Dieu. Et on va regarder dans Romains 3, 19 à 26, si Paul nous parle de la condition de l'être humain. Ensuite, EE nous présente, l'évangélisation explosive nous présente la personne de Dieu. Et on va regarder ce que Romains 3 nous dit sur la personne de Dieu. Et le quatrième élément de la présentation de l'Évangile, les enfants, ils font ça mieux que moi, tu sais, ils sont là, 3, 4, 2, en tout cas. Moi, je me mélange un peu, mais en tout cas, on va dire 4 comme ça, ok. EE nous présente la personne et l'œuvre de Christ. Et le dernier élément de EE, c'est la foi. Alors, la présentation de EE, elle est très intéressante parce qu'elle nous présente aussi beaucoup d'images pour présenter l'Évangile. Des images très pratiques. Et ça, quand vous présentez l'Évangile, ça peut marquer votre auditoire ou votre interlocuteur. Alors, on regarde ensemble. Romains 3, versets 19 à 26. On va d'abord le lire. Alors, essayez de repérer d'abord s'il y a des versets qui parlent de la grâce. Verset 19. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, dont je lis dans la Bible du Semeur, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché, déclaré juste par la foi. Ouais, là, je me demande pourquoi il y a... Ah oui, déclaré juste par la foi, mais maintenant Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Alors on va dépasser le verset 26. On va lire d'autres autres versets de plus. Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe ? Celui de l'obéissance à la loi. Non, mais selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs ? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de la foi. Alors, si on reprend la présentation de eux, en fait, vous pourrez faire le même exercice avec le pont que je vous ai montré là, pour voir si dans la présentation du pont, on peut voir des concepts qui se retrouvent dans Romains chapitre 3, versets 19 à 30. Alors, premièrement, la grâce. Est-il question de grâce dans ce passage ? Ben, je vous invite à regarder au verset 24. Verset 24. Voilà. Ils sont déclarés justes, tous sont péchés, hein, dit Paul, mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait pour le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alors, la grâce, l'évangélisation explosive commence par le concept de la grâce et explique que la grâce est un don gratuit. Et ce verset 24 nous présente l'expression suivante, le don, c'est un don. Dieu nous fait un don. Un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et déjà, quand vous présentez l'évangile à quelqu'un, d'insister sur le fait que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est intéressant. Et à ce niveau-là, on verra un peu plus tard l'image du cadeau d'un ami. Et si c'est un don gratuit, et si c'est un don de grâce, bien ça signifie que c'est un don qu'on ne mérite pas et qu'on ne peut pas gagner. Et dans ce texte de Romains, Paul insiste qu'on ne peut pas gagner le salut par l'observation de la loi. C'est impossible, dit l'apôtre Paul. Au verset 25, on a aussi un élément qui est important aussi, au début du verset 26, il nous dit « Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. » C'est-à-dire que quand Christ est venu, le prix du péché a été clairement démontré parce que Dieu a posé un acte de jugement et l'acte de jugement qu'il a posé, il l'a posé sur qui ? Sur son fils. Mais avant que son fils vienne, Dieu était bien patient. Et il aurait pu juger l'humanité d'une manière définitive. En fait, il l'a fait au temps du déluge. Il a aussi posé un acte à la tour de Babel, tu sais, mais disons que dans l'Ancien Testament, en général, avant Jésus, Dieu était patient, il était vraiment patient. Il aurait pu exécuter son jugement et sa sentence, mais non, il était extrêmement patient, et sa patience est le fruit de sa grâce. Donc on voit un petit peu ça dans ce passage de Romains 3. Deuxième élément, quand on présente l'évangile avec on utilise un deuxième concept, c'est celui du péché de l'être humain. Est-ce que ce texte parle du péché de l'être humain ? Bien, verset 19, c'est assez clair. Le verset 19 nous dit « Nous savons ce que l'Écriture dit dans la loi. Elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. La loi met en évidence le péché de l'être humain et la culpabilité de l'être humain. Quand la loi de Dieu, tu dis, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est sûr que la loi nous montre qu'on n'arrive pas à aimer notre prochain comme nous-mêmes. On peut poser des actes de bonté, mais c'est pas ça qui fait qu'on aime notre prochain. Les gens qui ne connaissent pas Dieu se disent, je pose des actes de bonté, puis ça va me suffire quand je vais arriver devant Dieu. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que le propre de la justice n'est pas de tenir compte des actes de bonté pour nous esquiver ou pour que nous puissions échapper à un jugement. Et la justice humaine est exactement comme ça. Si tu es coupable et tu as brisé la loi, tu as beau faire une liste de toutes les bonnes actions que tu as accomplies, le juge va te juger, non pas sur tes bonnes actions, mais va te juger sur le fait que tu as brisé la loi. Et Dieu fait pareil. Et nous, notre concept de la justice est un reflet de la justice de Dieu. Alors pourquoi on arriverait devant Dieu en disant, écoute Seigneur, tu vois toutes mes bonnes œuvres, ben ça, dans la balance, ça pèse plus que mes mauvaises œuvres. Ben Dieu va te dire, c'est pas comme ça que ça marche. Puis il va te dire, tu le sais, parce que la justice humaine ne marche pas comme ça. Parfois tes bonnes œuvres peuvent faire en sorte que le juge va être un peu moins sévère, mais il va tout de même te condamner pour tes mauvaises œuvres. Tu sais? Et nous acceptons tous cela. Vrai? Parce que moi, là, si quelqu'un vient faire du mal, par exemple, à mon épouse, à ma femme, ou à mes enfants, et que mes enfants deviennent, ou mon épouse devient la victime d'un agresseur, ben, dans mon cœur, je sais que cet agresseur doit être puni pour les fautes qu'il a commises, même si c'est un bon père, ou même s'il a commis des bonnes actions. La justice est fondée là-dessus, et nous sommes tous d'accord avec cela. Imaginez-vous si quelque chose arrivait à quelqu'un que j'aime profondément, puis que le juge dise à cette personne, écoute, le mal que tu as fait, c'est pas grave. Tout le bien que tu as fait, ça compense. Comment est-ce que je réagirais, moi? Ah, je serais révolté. Et chacun d'entre nous, nous serions aussi révoltés. Alors, cette même règle s'applique avec Dieu, qui est le juge. Alors, donc ici, l'être humain est coupable. Le verset 23 nous dit aussi que tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul commandement fait que nous brisons toute la loi, dit Jacques, dit la Bible. Donc, chacun de nous, nous sommes coupables. Chacun de nous, nous méritions d'être privés pour l'éternité de la présence de Dieu, être privés de la gloire de Dieu, parce que nous avons brisé la loi de Dieu. Tu sais, si tu brûles une lumière rouge devant une voiture de police, n'essaie pas d'argumenter avec la police en disant que ça fait 20 ans que tu as ton permis et que tu n'as jamais fait une erreur en conduisant. De toute façon, il ne te croira pas, c'est impossible. Mais même si c'était le cas, tu viens de brûler le feu rouge. Donc tu mérites une condamnation. Le verset 20 dit aussi que nous ne pouvons nous justifier nous-mêmes. Personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Personne ne peut être déclaré juste en se présentant devant Dieu en disant « Dieu, moi, j'ai accompli ta loi. » Ah oui, à moins qu'il soit un pharisien. À moi, Seigneur, je ne suis pas comme le publicain, là. Tu vois, lui, là, qui se frappe la poitrine, regarde-moi. Regarde-moi avec mes traditions, ma religion. Le Seigneur va dire, mon cher, tu te trompes. C'est lui qui va rentrer chez lui justifié, et toi, tu rentreras chez toi, mais tu ne seras pas justifié. Troisième élément, dans ce texte, nous voyons la grâce de Dieu. Ensuite, nous voyons... Oh, il faudrait que je change de diapo, là. Ce serait peut-être bien utile, là. Voilà. Nous avons vu dans ce texte qu'il est question... Il est question de la grâce de Dieu, il est question aussi de la culpabilité de l'être humain, mais dans ce texte, il est question aussi de la personne de Dieu. Hein? Dieu, verset 26, le texte nous dit ceci. Il montre aussi, donc Dieu montre aussi qu'il est juste dans le temps présent, il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Dieu. Alors qu'est-ce que dit ce verset sur Dieu? Le verset nous dit que Dieu est un Dieu juste. Bien souvent, l'être humain, dans son péché, il croit que Dieu est injuste. Il accuse Dieu de toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit que Dieu est un Dieu juste. Et Dieu, c'est aussi un juge. Donc quand Dieu juge, si ça ne fait pas mon affaire, je l'accuse d'être injuste. Et je suis un peu comme un personnage célèbre de l'autre côté de la frontière qui accuse le juge qui est en train de diriger son procès, d'être corrompu, de ceci, de cela, de toutes les injustices du monde. T'sais? Puis nous, on fait pareil avec Dieu. T'sais? On l'accuse d'injustice. Mais la Bible nous dit que Dieu est juste et que la justice de Dieu se manifeste. Regardez verset 21. Verset 21. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Alors, Dieu manifeste sa justice, nous dit donc ces deux versets, en déclarant les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Alors, les versets 25 et 26 nous parlent aussi de cette justice de Dieu, la deuxième partie du verset 25. Dieu montre ainsi qu'il est juste, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Est-ce que Paul insiste là? Hein, ça fait plusieurs reprises là. Il nous dit que Dieu est juste dans ce passage. Alors, quatrième élément, quand on présente l'évangile selon le modèle de EE, c'est qu'on insiste sur le Christ. Le Christ. Alors, je crois que vous allez avoir une étude biblique sur Jean chapitre 1. Est-ce que c'est bien ça, Christian? Hein? Jean chapitre 1 nous présente la parole qui est devenue chair. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. D'accord? Donc, dans sa nature, Christ est 100% Dieu et il est 100% humain. Il n'est pas 50% humain, 50% Dieu. Il est 100% divin et 100% humain. Et c'est la raison qu'il peut être l'intermédiaire parfait entre les hommes et Dieu. Il y a un seul intermédiaire, nous dit la Bible. Alors regardons ce que ce passage nous dit de Christ. Verset 25. Alors, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Donc Jésus est une victime expiatoire. Expiatoire, ça veut dire que Jésus a subi un châtiment équivalent au châtiment que moi je devais subir. C'est pour ça que son sacrifice est validé par Dieu, ce sacrifice légitime. Parce que Jésus n'a pas subi une condamnation, comment dirais-je, minimale, c'est le Fils de Dieu, on va le préserver un peu, tu sais. Non, non, Christ est une victime expiatoire. Il a expié les péchés de tous ceux qui croient en lui. Donc il a subi le châtiment équivalent à celui que nous, nous méritions. C'est nous qui méritions la mort devant Dieu. Le verset 24 nous présente un autre concept en rapport avec ce que le Christ a fait. Lisons le verset 24. « Les hommes sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Est-ce que quelqu'un a la version de Louis II? Vous avez la version de Louis II? Peut-être tu l'as devant toi? Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 24? C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption.
Voilà. Alors, le second utilise l'expression rédemption. Ici, dans la Bible du Semeur, c'est le mot délivrance. La délivrance apportée par Jésus. Mais Jésus nous délivre comment? Il nous délivre parce qu'il nous rachète. Et la rédemption, c'est l'acte de payer le prix pour racheter quelqu'un. Dans Minuit Chrétien, on parle du rédempteur. Il y a un chant qui dit « Rédempteur adorable ». Jésus est celui qui paye. Il paye un prix pour nous racheter. Quel est le prix? C'est qu'il accepte d'être condamné pour nos péchés à notre place. Et lui, il paye ce prix-là pour que nous, on ne soit pas condamnés pour nos propres péchés. Alors voilà ce que Romain nous dit, Romain 3 en rapport avec Jésus-Christ. Dernier élément, c'est la foi, et on va terminer avec celui-là. Le verset 28 nous dit « Voici donc ce que nous affirmons, l'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. » Est-ce que je suis obligé d'aimer Dieu, tout mon cœur, mon âme, ma force, ma pensée, etc., pour pouvoir le justifier ? Non. Est-ce que je dois aimer mon prochain de manière parfaite pour être justifié ? Non. Est-ce que je dois aimer Dieu, mon prochain ? Oui. Mais est-ce que mes efforts suffisent ? Non. C'est parce que mes efforts ne suffisent pas que je suis condamné. Mais c'est par la foi en ce que Jésus a fait que je peux m'approprier la bonne nouvelle de Jésus-Christ et la faire mienne. Donc le moyen de la justification, c'est la foi, nous dit l'apôtre Paul. Ensuite, dans les versets 22, 26 et 30, comme vous voyez à l'écran, cette foi, ce salut, il est réservé pour tous ceux qui croient. Verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et au verset 26 et 30, il est question aussi de la foi en Jésus. Au verset 26, il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Et au verset 30, il précise que c'est pour tous, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi, mais qui justifie aussi les non-juifs en raison de leur foi. Donc qu'on soit juif ou pas juif, Dieu nous justifie, il nous considère comme justes au travers de notre foi. Alors voyez-vous, on a quelques éléments là, qui sont présents dans cette façon de communiquer l'évangile, dans la façon d'évangélisation explosive, ces éléments-là, la plupart de ces éléments de la présentation de l'Évangile selon eux se retrouvent dans Romains 3. Maintenant, il y a des moyens plus attirants de parler du Seigneur sans faire que de la théologie, tu sais, pour marquer un petit peu l'esprit de ceux à qui nous parlons. Et là, nous allons regarder ça un peu plus tard dans l'après-midi. Alors, quelles sont les illustrations qu'on peut utiliser ? Et on va voir que dans la présentation de EE, il y a peut-être quelques éléments qui ne se retrouvent pas dans Romains chapitre 3. Mais j'ai voulu choisir Romains chapitre 3 pour cet après-midi parce que je pense qu'il présente tout de même, il fait une bonne présentation d'éléments qui sont essentiels quand on présente l'Évangile. Là, vous allez me dire, oh là là, là tu viens de nous faire une présentation orale de ce que c'est que l'Évangile, mais moi je ne suis pas doué, tu sais. Puis moi, j'ai la difficulté à m'exprimer. Et puis, parler de tout ça, c'est compliqué, tu sais. C'est pas si compliqué que ça. Ça demande certainement une formation. Vous savez ce que fait EE ? EE, ils font une formation sur à peu près 3 mois, une fois par semaine, en église, où les gens viennent à l'église, ils sont divisés en équipes, et ils apprennent comment présenter tous les éléments de l'Évangile en petites bouchées. Vous savez qu'on peut manger un gros gâteau au chocolat, mais c'est très mauvais de le manger d'un seul coup. Mais si tu veux en petite bouchée, puis tu le manges un petit peu chaque jour, après un certain temps, tu as mangé ton gros gâteau au chocolat. Et pour la présentation de l'Évangile, c'est un peu comme ça. Parfois, on se sent démuni. On dit, je ne suis pas capable, je ne pourrais jamais expliquer tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Là. Tout s'apprend, les amis. Tout s'apprend si on décide de s'y mettre, et petit à petit, une bouchée à la fois, eh bien on est capable d'apprendre comment présenter, décrire, expliquer ce que c'est que la bonne nouvelle et pourquoi c'est une bonne nouvelle en Jésus-Christ. On va terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu ferais de nous des pécheurs d'hommes. Ah Seigneur, je connais très bien ce verset-là, mais est-ce que je suis vraiment un pécheur d'homme ? Est-ce que tu as fait vraiment de moi un pécheur d'homme ? Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur, de faire de moi une fille, un gars qui sait comment prêcher l'évangile à ceux qui les entourent. Seigneur, tu veux aussi que nous apportions l'évangile jusqu'au bout du monde. Mais Seigneur, est-ce que j'apporte l'évangile à mon prochain, à mon voisin, à celui qui habite dans mon bloc appartement, dans ma rue, sur ma rue, aux membres de ma famille? Seigneur, fais de nous des pécheurs d'hommes. Amen.